Bonsoir. Bonne nouvelle ce soir, Victoria est là.
Bonjour.
Ça, c'est... Et puis, je peux dire une meilleure...
J'ai fait la... Non, si vous dites non. Une meilleure nouvelle, je me fâche.
Alors, il y a encore une autre bonne nouvelle, qui est une très très bonne nouvelle alors. C'est... Bonsoir Jean-Marie Le Pen.
Une vraie bonne nouvelle.
Une vraie bonne
nouvelle. Oh, les ignobles.
Alors, bonsoir, bonsoir à tous. Jean-Marie Le Pen qui devait venir il y a 15 jours et puis qui a eu, non pas un empêchement, mais une obligation et plutôt un douloureux devoir qui était d'assister à la messe pour les moines égorgés de
Tibérine.
Il nous avait prévenu, j'allais dire d'avance, mais on prévient toujours d'avance. Et donc, il nous avait annoncé sa visite ce soir. Merci d'être avec nous. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Alain Sanders, de présent et autre lieu. Non, non, essentiellement de présent.
Vous ne trouvez pas que vous chargez un peu la mule ce soir?
Ça fait, entre Victoria de National Hebdo, Sanders de présent et Jean-Marie Le Pen, je me demande si cette émission ne va pas prendre une coloration politique marquée.
Et puis Beckett du Libre Journal.
Oui, c'est vrai, en plus. Enfin, là, je suis là avec
une provocation.
Du journal Encore Libre.
D'accord. Donc, Jean-Marie Le Pen, vous êtes venu pour nous parler de l'Irak. Alors. Ça peut paraître un peu curieux parce que le leader nationaliste, comme on dit maintenant, le président du Front National, qui est un parti qui passe pour un parti au moins indifférent aux questions étrangères, et qui passe souvent pour un parti, ouvrez les guillemets, xénophobe, fermez les guillemets, s'intéressant à l'Irak, ça peut surprendre. Alors la première question, je crois que c'est la question que beaucoup de gens se posent, y compris d'ailleurs des sympathisants ou des non-hostiles au Front National, c'est pourquoi Jean-Marie Le Pen et pourquoi le Front National semble-t-il attacher une telle importance à l'Irak, qui n'est finalement qu'un des pays du Moyen-Orient, qu'un des pays arabes, et pas les plus intéressants pour parler en termes d'économie internationale.
Oui, d'abord, je crois que la France a toujours eu une dimension internationale, une dimension mondiale. Toute son histoire le prouve. Et il y a à la politique une dimension étrangère qui n'exclut pas, bien sûr, la préférence nationale. Quand nous disons les Français d'abord, nous ne disons pas les Français seulement, ni les Français seuls. Nous disons qu'en France, les Français doivent être traités avec plus de considération que quiconque, car il s'agit de leur pays, du pays de leurs ancêtres, ou du pays dans lequel ils ont été admis de bon cœur, quand ils le méritent, et qui doit consacrer l'essentiel des ressources qui sont tirées de la poche des contribuables à l'amélioration du sort des Français d'aujourd'hui et des Français de demain. Bon. Mais la France et le Front National se sont toujours intéressés à ce qui se passe dans le monde, parce que ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui conditionne aussi notre existence, notre liberté. Nous avons combattu l'hégémonie communiste partout, y compris les armes à la main en Indochine. Par conséquent, à problèmes mondiaux, réponse mondiale. Alors, pourquoi l'Irak? D'abord, je dois dire que j'étais probablement, au moment où l'Irak est venu au premier plan de la diplomatie internationale et de l'histoire mondiale, en 90, j'étais probablement le seul homme politique français de quelque importance qui ne connaissait pas l'Irak, qui n'avait jamais reçu un centime de l'Irak, suivez mon regard, savait cependant le rôle de l'Irak, en particulier dans l'histoire culturelle du monde, ou dans l'histoire tout court de la civilisation, puisque l'Irak, on le sait, c'est L'ancienne Mésopotamie, c'est à la fois la ville d'Ur, c'est Ninive, c'est Babylone, plus connue sous le nom de Babel. S'y sont croisés à la fois Cyrus, Xerxès,
Tamerlan,
Alexandre qui est mort, on le sait, à Babylone. J'ai été l'autre jour visiter d'ailleurs le château reconstruit, restauré à côté du lion d'époque, n'est-ce pas ? Et je dois dire que je rêve de que soit jumelé notre ville d'Orange avec la ville de Babylone, puisque ce sont des villes, deux grandes villes de festivals internationaux. Mmh. Et par conséquent, je souhaite que cette dimension culturelle soit intégrée et je souhaite qu'elle soit comprise par nos amis, par nos électeurs, par nos partisans. Alors, en Irak, il se passe quelque chose en 90, une guerre. Bon, une guerre entre l'Irak et le Koweït. Ce sont des pays frères, des pays même tellement frères que Saddam Hussein, à la suite de beaucoup de dirigeants irakiens, affirme que le Koweït fait partie intégrante de l'Irak et qu'il a été soustrait par les Anglais et par les Américains pour des raisons exclusivement pétrolières. Alors je crois qu'il est nécessaire quand même de faire un petit retour en arrière pour expliquer pourquoi ce pays, l'Irak, quelles sont les raisons qui vont le pousser à agresser militairement son voisin, le Koweït. La raison en est claire. Depuis plusieurs années, une guerre oppose, une guerre terrible, qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. L'Irak, présenté à ce moment-là comme le défenseur de
la démocratie,
de la démocratie et parce que le parti au pouvoir, c'est le parti socialiste basse, n'est-ce pas, de la démocratie et de la laïcité, en quelque sorte, ce qui est rare dans le monde musulman, qui brûle en quelque sorte d'une poussée islamiste contre l'Iran intégriste, révolutionnaire et violent. Et il est vrai que l'Irak a été encouragé à faire cette politique, mais c'est une politique qui l'a ruinée. Et il attend, à la fin de cette guerre, pour relever ses ruines et ses destructions...
Des centaines de milliers de morts.
Et des centaines de milliers de morts, ces pertes que les pays du Golfe, dont il a protégé, en quelque sorte, la sécurité et même l'existence, participent comme il l'avait, s'était engagé à le faire. C'est le cas de l'Arabie Saoudite et du Koweït. Or, il se produit là quelque chose d'essentiel sur lequel j'attire l'attention de tous. C'est que les États-Unis vont pousser le Koweït et l'Arabie Saoudite, qui s'apprêtaient à régler leurs dettes, à une attitude intransigeante. Et c'est en quelque sorte pris à la gorge que Saddam Hussein et les Irakiens vont attaquer l'Irak. Et l'envahir pratiquement, le Koweït, pratiquement sans combat, il faut le savoir. Bon. Et c'est d'ailleurs préalablement, Saddam Hussein pouvait se croire autorisé à le faire par les maîtres de la région, c'est-à-dire par les Américains, puisque au Sénat américain au mois de juin, le secrétaire d'État avait déclaré que l'Amérique n'interviendrait pas dans le cas où il y aurait un conflit dans cette région du monde. Et que, quelques jours avant que les armées irakiennes n'envahissent le Koweït, Mme Gillespie, ambassadeur américain, spécialement dépêché à Bagdad, déclare à Saddam Hussein qu'il suive la même politique, à savoir, il n'y aura pas de réaction américaine. Or, ceci est dit à Saddam Hussein au moment où, depuis plusieurs jours déjà, se mobilise l'armada des Marines aux États-Unis. Autrement dit, j'accuse de la façon la plus formelle les États-Unis, comme en d'autres circonstances de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir tendu un piège à l'Irak, piège dans lequel l'Irak est tombé, ceci pour justifier. L'Amérique a toujours besoin de justifier son agression. Et qu'elle présente toujours, d'ailleurs, comme la défense du droit, de la civilisation, de l'honneur et de la vertu. Et comme il n'est pas évident que l'Amérique ait le droit de faire la guerre, c'est d'ailleurs ce que le pape dira, n'est-ce pas, que la guerre est injuste. Mais comme le Sénat se fait tirer l'oreille, eh bien, avec la complicité de George Bush, on va monter une abomination, c'est-à-dire qu'on va raconter que les soldats irakiens, en prenant Kuwait City, beau nom pour une capitale arabe, beau nom arabe de capitale, ont sorti de leur couveuse des dizaines de bébés et les ont massacrés. Pour les gens qui connaissent un peu le monde des armées régulières, et qui connaissent aussi le sentiment qu'ont les Arabes, et beaucoup d'hommes à l'égard des enfants, évidemment l'accusation est tout à fait monstrueuse et invraisemblable. On voit quelquefois des férocités de ce type, mais quand la tension des combats a atteint
un
niveau ou des représailles, là, il n'y a pas de résistance. Or, ceci est une forgerie qui sera avouée plusieurs mois plus tard par l'officine américaine de relations publiques qui avouera avoir monté cela avec les faux témoins, à savoir la fille de l'ambassadeur du Koweït qu'on verra pleurer à la télévision.
Se présentant comme une nurse.
Se présentant comme une nurse qui a assisté au massacre. Et le médecin-chef de l'hôpital qui affirmera avoir été ligoté et impuissant, avoir assisté à la monstruosité. C'est un dentiste koweïtien de New York. Eh bien, ceci va permettre à George Bush, qui utilisera cet argument dans 5 discours différents, à un moment particulièrement crucial de la crise, d'obtenir du Sénat américain l'autorisation de faire la guerre. Pourquoi faire la guerre ? Pour compléter l'influence déjà considérable dont l'Amérique dispose dans le Golfe Persique, c'est-à-dire à l'endroit où se situe la plus grande partie des réserves pétrolières du monde, qui tient le pétrole du Moyen-Orient, tient le monde. Voilà la vraie raison de l'intervention américaine.
Il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention des auditeurs, c'est que c'est exactement le processus de Timisoara, c'est exactement le processus de Carpentras. C'est exactement la même chose. Oui. C'est-à-dire, on fabrique un mensonge effroyable qui va littéralement pétrifier d'horreur
que l'on répète.
Les populations, que l'on matraque, que l'on fait confirmer par les plus hautes autorités, ouvrez les guillemets, morales du pays.
Oui, je voudrais d'ailleurs rappeler là que l'association, comment ça s'appelle, c'est pas Greenpeace, c'est l'autre, l'association internationale humanitaire, Amnesty International, va compter les cadavres de bébés. Et nous avons compté 183 bébés. Et ce qui me fait dire à ma femme le soir, mais c'est pas possible, toute la population de Kuwait City a accouché le même jour, et tous prématurément, n'est-ce pas ? Bon, c'était invraisemblable. Comme à Timisoara, dans mon lit, regardant la télévision, je dis à ma femme, mais regarde, les cadavres sont cousus.
Oui.
N'est-ce pas ?
Ma femme avait fait la même réflexion.
Mais c'est très important que tout le monde comprenne bien ça et se mette désormais en garde, se tienne en garde contre ce genre d'informations.
A priori,
il y a en effet tout à craindre de ces informations médiatiques qui vous coupe le souffle, n'est-ce pas, qui suscite l'horreur, et nous parlerons peut-être tout à l'heure du cas de l'extrême droite, car il s'agit là d'une opération de même style, c'est-à-dire destinée à toucher dans notre esprit des ressorts involontaires et incontrôlés, des réactions qui échappent au contrôle de l'esprit et de la volonté. Quoi qu'il en soit, au départ, un énorme mensonge pour justifier, sous la forme de la défense du droit, de la démocratie et des droits de l'homme, la mainmise des Américains, non seulement sur le pétrole koweïtien, mais aussi sur le pétrole irakien. Et de là à sauter sur le pétrole iranien, et puis il n'y a plus qu'à prendre le pétrole libyen, et tout sera fait. Or, l'Irak était une des relations privilégiées de la France. Et il faut reconnaître à Jacques Chirac qu'il avait eu ce bon réflexe de nouer avec ce pays qui avait ce que nous n'avions pas, alors que nous avions ce qu'il n'avait pas, des relations tellement étroites qu'il embrassa Saddam Hussein et qu'on écrivit son nom, CH apostrophe IRAK. Chirac. Il la poussa d'ailleurs la collaboration à un point très élevé, puisque nous vendîmes pendant la guerre d'Irak-Iran pour 130 milliards lourds d'armement à
l'Irak.
À l'Irak. Nous lui fournîmes, la France fournit à l'Irak, une centrale nucléaire clé en main aux Irak, que d'ailleurs les Israéliens se permirent, au mépris de toutes les lois internationales et du statu quo et du maintien de la paix, de bombarder préventivement, comme s'il y avait dans cette région du monde des pays qui avaient le droit d'avoir la bombe atomique et des pays qui n'avaient pas le droit de l'avoir.
Et accessoirement, d'ailleurs, à la même époque, Israël a fait assassiner l'ingénieur irakien qui était venu en France pour...
Il l'a fait assassiner.
Alors, à Paris, dans son appartement.
Je m'excuse d'être un petit peu long et discursif, mais c'est nécessaire pour comprendre tout. Puis là s'ouvre la guerre tempête du désert. Tempête du désert à laquelle la France va participer, ce qui motive ma première intervention dans ce débat au mois d'août 90. Je dis la France n'a rien à faire dans cette opération militaire dont je sentais que les dessous étaient à la fois mal propres et malséants. La France se devrait, disais-je, de garder une attitude de réserve qui lui permettrait d'avoir dans cette région du monde et dans le monde arabo-musulman, une position de médiateur ou de médiatrice et réserver les chances de collaboration que nous avions, surtout avec ce pays qui était un pays ami, encore une fois, et qui avait eu le mérite, avec Saddam Hussein, de sortir de l'orbite soviétique, n'est-ce pas, dans laquelle le général Kassem et le général Aref, le président Aref l'avait plongé. Alors, je réserve qu'il va me valoir, bien sûr, les insultes, M. Mouillot et toutes les belles âmes, M. Noir, M. Carignon, vont coller dans leur ville des affiches où on verra M. Le Pen serrer la main de Saddam Hussein, mais là aussi, quand c'est Chirac qui serre la main de Saddam Hussein, c'est très bien. Quand c'est le Parti Socialiste qui reçoit le Parti Socialiste de Saddam Hussein irakien au congrès de Rennes, c'est admirable. M. Hollande a oublié ça sans doute quand il a fait son commentaire l'autre jour. Mais quand c'est Jean-Marie Le Pen, c'est abominable. N'est-ce pas ? Bon. Et puis, là, la guerre va se déclencher. Les Américains vont la mener de manière féroce. Là encore, un mensonge, on dit, c'est la quatrième armée du monde. C'est une affirmation dérisoire. Un pays de 20 millions d'habitants qui ne produit pas ses propres armements ne figure même pas dans la liste des puissances militaires de premier rang. Bon. Mais sous ce prétexte va permettre d'écraser non seulement l'armée irakienne, ce qu'après tout, on comprendrait. Les Américains ayant comme règle de ne pas vouloir perdre un seul homme et pour sauver un seul homme étant prêt d'en tuer 10 000. Bon. Mais ils profitent aussi de l'occasion pour démolir toutes les infrastructures de ce pays qui aura fait un réel effort de partage de sa richesse avec son peuple d'une part et de promotion. N'est-ce pas ? L'Irak, c'est un pays qui est digne de ses ancêtres lointains, en tous les cas qui a la volonté de redevenir digne. Et les pilotes de chasse, et les professeurs de médecine, et les professeurs de droit qui faisaient leurs études à Montpellier, tous ces gens-là témoignent de la qualité intellectuelle et morale de ce peuple qui, de surcroît, est un peuple d'une dignité, d'un courage, d'un sens du sacrifice admirable. Je le dis franchement,
Est-ce qu'on peut ajouter en plus que dans un contexte musulman parfois troublé et intégriste, c'est un endroit où les cloches des églises catholiques ou orthodoxo-syriennes sonnent à toute volée le dimanche.
Absolument, il y a 40 églises chrétiennes dans Bagdad. Et j'ai voulu moi-même faire l'expérience de me rendre dimanche midi dans une de ces églises. Il n'y a jamais de problème de ce type. C'est le seul pays arabo-musulman qui se trouve dans une situation comme celle-là.
Bon. 3% de chrétiens.
Alors, on va donc écraser les cimenteries, les infrastructures économiques. d'une manière que nous avons connue, il faut bien le dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où très souvent les bombardements alliés faisaient plus de dégâts autour, dans la partie civile de la ville que dans sa partie militaire. Bon. Mais c'est une technique, quand on bombarde de haut, même avec, paraît-il maintenant, on voit une cigarette à 20 km
et
on
frappe sur le nombre de morceaux de sucre dans le...
C'est ça. En tous les cas, il y a un fait, les usines de fabrication de poudre de lait sont détruites aussi. Bon. Et à partir de ce moment-là, les objectifs de l'ONU sont atteints. Et au-delà, puisque l'objectif c'était que l'armée irakienne sortît du Koweït. Bon, elle est sortie... Elle est détruite, le pays est ruiné. On pourrait penser qu'on va laisser ces gens-là reconstruire leur pays. Ils ne représentent plus aucune menace militaire pour qui que ce soit, et même plus pour l'Iran, ce qui devrait nous créer relativement un certain souci. Il n'équilibre plus l'Iran. À ce moment-là va commencer une période qui va constituer, selon moi, et je pèse mes mots, un véritable crime contre l'humanité qui dure depuis 5 ans. Car l'ONU va déclencher le blocus, n'est-ce pas, sous le prétexte de recherche d'armement de destruction massive qui aurait échappé aux yeux pourtant perçants des satellites américains. Comme je le dis, vous êtes capable de voir un mégot à 20 km, mais bon, bref. Et depuis 5 ans, les commissions de l'ONU parcourt le pays, et chaque fois que on oppose la moindre difficulté à leur curiosité insatiable et violatrice, bien évidemment, de l'indépendance nationale et de la dignité de son peuple.
Oui, simple dignité.
Oui. C'est le cas aujourd'hui, il y a encore de nouveau un incident. On dit, ah ben c'est pas possible,
on s'en va.
Et on poursuit le blocus. Or, il faut savoir que le blocus... 600 personnes par jour, 600 personnes par jour depuis 5 ans, dont 300 enfants. Pourquoi ? Parce que non seulement il est pratiquement impossible de faire rentrer quoi que ce soit en Irak, et il n'y a pas un seul avion qui se soit posé à Bagdad depuis 5 ans, sauf les avions de l'ONU, depuis 5 ans. Et pour aller à Bagdad, il faut traverser le désert, 1000 km de désert en voiture. Bon. Et surtout, il leur est interdit d'exporter leur pétrole, qui est leur ressource principale, sinon exclusive.
Si vous permettez, Jean-Marie Le Pen, on va parler dans 2 minutes de la réalité de l'embargo, que vous avez vérifié puisque vous étiez là-bas il y a un mois, maintenant pas tout à fait.
3 semaines.
3 semaines, oui. Mais avant, j'aimerais vous poser une autre question, parce que je crois que vous avez bien expliqué les raisons pour lesquelles vous avez en quelque sorte pris parti contre la raclée, la punition au sens presque mafieux du terme qui a été infligée à ce pays. Mais il y a une question qui, à mon avis, se pose aussi. Si on comprend bien votre position à l'égard du pays, de l'Irak, on la comprend moins en ce qui concerne le pouvoir. C'est-à-dire, on comprend très bien que le Front National et Jean-Marie Le Pen disent qu'il est inhumain et scandaleux de punir avec cette force un pays entier, des centaines de milliers de femmes, d'enfants, enfin des millions de femmes et d'enfants qui sont des victimes innocentes d'une situation dont ils ne sont évidemment pas responsables, puisque qu'on le veuille ou non, même si c'est une dictature socialiste, même si ça a eu une dictature qui a eu l'appui des socialistes et de M. Chirac, ça n'en reste pas moins une dictature, et jusqu'à plus ample informée, la guerre n'a pas été déclarée par le peuple irakien, mais par le gouvernement irakien. Or, vous êtes allé plus loin, vous avez manifesté, de façon publique, ostensible, répétée, votre, je ne sais pas s'il faut dire soutien, mais enfin votre considération pour Saddam Hussein, puisque vous êtes allé le voir, vous lui avez serré la main. Vous l'avez dit, vous n'étiez pas le premier à le faire, mais dans les circonstances, c'était particulièrement, employant sensationnel. Donc, quelle est la raison pour laquelle vous avez eu cette attitude, qui était un petit peu provocante?
Bon, d'abord, la première, c'est que il se passe là-bas une injustice majeure et une extermination, on peut le dire, programmée. Une série de meurtres programmés par centaines de milliers, et que c'est exécuté par nous. Ce peuple ne nous demande rien. Il a de quoi vivre.
Simplement, on l'étrangle. Et qui l'étrangle ? Ce sont les puissances occidentales, celles qui s'érigent en défenseurs des droits de l'homme, qui, une main sur le cœur et l'autre sur le colt, font régner la loi du veau d'or. C'est pour cela, c'est parce que la France est associée à ce crime que je me crois un devoir de protester pour dire que, aux Français qu'ils n'ont pas à être là, comme je l'ai dit aux Américains. J'ai toujours été un ami des Américains. J'ai dit, j'adjure mes amis américains et j'adjure le peuple américain de s'opposer aux crimes qui sont commis en son nom par son gouvernement, car tout cela, à mon avis, déstabilisera cette région et crée un fait que tout homme de cœur ou simplement de simple honnêteté ne peut pas accepter. La deuxième raison, c'est que l'Irak est une zone clé. Si on, géopolitiquement, elle est au centre de ces pays, au centre du Moyen-Orient, région toujours troublée, et d'où peut partir, et d'où sans doute partira, si elle part, la énième guerre mondiale. Donc, sujet à traiter avec beaucoup de prudence. Le régime irakien, il faut savoir que toute l'histoire de l'Irak, qui a plus de 5000 ans, n'est-ce pas ? Donc, toute l'histoire de ces peuples, qui est un confluent de peuples variés et divers, c'est l'histoire de la diversité et l'histoire des oppositions. Il est certain que s'il n'y avait pas un régime autoritaire, l'Irak éclaterait. C'est le souhait que forment les mondialistes qui souhaitent, aussi bien en France qu'en Irak, découper les nations en qui elles voient des pierres d'achoppement de leur politique d'unification du monde, en plusieurs régions. Or, il y a, sur le plan religieux, sur le plan ethnique, en Irak, des oppositions entre chiites, sunnites, kurdes, chaldéens, chrétiens, etc. Et que seul un gouvernement autoritaire est capable de les maintenir ensemble. Mais d'ailleurs, y a-t-il dans ces régions du monde
c'est la question que j'allais vous poser.
Un seul régime démocratique, monsieur de Bekech? Et les régimes démocratiques sont de ouais, nos régions régime, sont-ils réellement démocratiques?
Le régime israélien quand même très démocratique.
Oui, il y a des élections, nous le savons.
Voilà.
Il y a des élections. C'est le seul pays qui, jusqu'à présent, est en tous les cas la pratique des institutions démocratiques. Mais que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, que ce soit
l'Iran,
l'Arabie, le Koweït, l'Iran, etc. Nous savons bien qu'il n'y a là, quand elles existent, que des paravents démocratiques. Mais n'est-ce pas le cas non plus de nos pays ? Nos pays sont-ils réellement démocratiques ? Et la morale démocratique est-elle une morale indiscutable qui écrase les faibles et favorise les forts, comme c'est le cas chez nous, qui fait taire les opposants, un peu à la manière dont on asphyxie l'Irak par manque d'oxygène, par manque de télévision ou de radio, ou par manque de colonnes dans les journaux, on fait taire les gens. Alors, il faut voir que ce qui se passe est pathétique. Alors, je sais qu'il y a des gens, disons franchement les choses, disons qu'il y a certains braves types de chez nous qui disent « Ah, qu'est-ce que Le Pen va faire là-bas, s'occuper des bougnoules, au lieu de s'occuper des Français ?» Mais d'abord, c'est pas un terme qu'on utilise au Front National, c'est un terme qui se veut outrageant, en tous les cas méprisant, en tout cas, et que nous n'avons pas à avoir une profession, aucun mépris pour quiconque. Nous voulons simplement, nous, être maîtres chez nous. Et nous admettons très bien que les autres peuples du monde soient maîtres chez eux. Moi, quand je vais dans un autre pays du monde, je me tiens sur une certaine réserve. Et quand j'ai le sentiment que quelque chose me déplaît, eh bien, je me dis après tout, si tu n'es pas content, tu peux toujours rentrer chez toi. Bon, ce que nous ne voulons pas, c'est que des gens viennent chez nous, nous imposent leur présence et nous imposent finalement leur volonté. Eh bien, je trouve que, d'ailleurs, il faut le dire, il y a eu un référendum, puisqu'on on est attaché aux formes extérieures de la démocratie, il y a eu un référendum.
Sous contrôle international.
Sous contrôle international. On a reproché à Saddam Hussein que ça avait été un référendum avec 99% de...
C'est pas comme à Cuba, par exemple.
N'est-ce pas, mais non, ou ailleurs. Il y a d'autres pays où il y a ce type de réponse. Et ce type de réponse s'explique. Souvenez-vous du blocus de l'Espagne après la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, moi, j'avais un ami qui était capitaine de pilote de chasse républicain, qui, à partir du moment où les Américains, l'ONU, les Alliés ont bloqué l'Espagne et lui ont appliqué le blocus qui était destiné à affamer les Espagnols pour qu'ils chassent Franco, n'est-ce pas ? Eh bien, il m'a dit, je suis devenu franquiste à partir du moment où les Américains ont voulu m'imposer une manière de voir.
Et le slogan de cette époque-là en Espagne était même, pardon d'employer le mot sur Radio Courtoisie, où je sais qu'on est très courtois, c'était « Viva España y mierda al mundo ». Et merde au monde, voilà. C'est à l'époque.
Et bien,
pas le journal, bien
entendu. C'est le même réflexe. Il s'agit d'un peuple fier, qui souffre d'une façon affreuse, atroce, mais qui se regroupe, qui reste uni, probablement parce que son instinct lui dit que s'il ne reste pas uni, il disparaîtra. Et que s'il disparaît, il sera l'esclave d'autres peuples.
Alors, on a bien compris, on a bien entendu, en tout cas, les raisons pour lesquelles vous vous êtes engagé, vous, Jean-Marie Le Pen, et vous avez engagé le Front National dans une action en faveur de l'Irak, du peuple irakien, et disons une action qui n'était pas hostile au pouvoir irakien, au régime irakien, puisque ça n'est pas de votre...
Il y a un pouvoir en place, il y a un pouvoir en place, j'en tiens compte, il ne m'appartient pas à moi de changer le pouvoir.
Alors, d'autant que les Américains non plus n'ont pas fait sauter.
Il faudrait qu'on me démontre d'ailleurs que le pouvoir qui succéderait à Saddam Hussein serait plus capable que lui d'apporter la stabilité, la paix, la sécurité et le progrès dans ce pays-là. Je n'ai pas cette prétention-là. D'autant, j'ajoute autre chose, c'est que l'Irak est un exemple clé. C'est qu'il tient le sentiment arabo-musulman à l'égard des pays occidentaux. La France, elle a une chance exceptionnelle, extraordinaire, de rejouer un rôle de premier plan dans le monde.
Vous anticipez ma question. Vous l'anticipez parce que j'allais vous dire, je comprends bien les raisons que vous nous donnez, qui sont en quelque sorte des raisons négatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'intelligence ou diplomatique de rentrer dans le système américain, israélo-américain, d'hostilité. D'a priori hostile à l'Irak et à son régime. Mais alors, la question qui se pose pour un vieux maurassien, et je sais que vous n'êtes pas très très éloigné d'appliquer la grille maurassienne à vos analyses politiques, quel est l'intérêt national positif de prendre une position aussi vigoureusement marquée en faveur de l'Irak? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus adéquat de rester dans une prudente réserve en disant « je désapprouve, mais voilà ».
Non, mais c'est-à-dire que c'est un problème. D'abord, nous sommes directement concernés. Alors, sur un autre plan, si vous voulez bien, de toute évidence, ce qui est en cause là-bas, c'est la liberté des nations et l'indépendance des nations. Je dirais que ce qui se passe en Irak ressemble assez à ce qui s'est passé en Espagne de 36 à 39. C'est-à-dire, c'était le laboratoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui se passe en Irak, c'est l'application des méthodes mondialistes face à une nation que l'on veut courber à l'obéissance et sous le joug économique. Ce qui est appliqué à l'Irak, la loi du blocus, s'appliquera demain à nous, ou pourra s'appliquer à nous. Dans le cadre du développement de la mondialisation des échanges et des productions, on aboutit, ce qui est logique, à une spécialisation. Les pays sont amenés, sur le marché international, à produire, et à produire seulement ce qui est vendable sur le marché mondial. Donc, à renoncer à toute la partie, à toutes les parties dont l'équilibre crée l'indépendance de ressources. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la mondialisation, les pays deviennent de plus en plus vulnérables dans leurs échanges internationaux. Et qui tient l'échange international tient en quelque sorte tous ces pays. Et si on emploie des méthodes aussi féroces, aussi cruelles que celle du blocus, car il ne s'agit pas d'un embargo. Je m'excuse, je ne voudrais pas ratiociner, mais on emploie souvent le mot embargo. L'embargo, c'est quand on retient des matières premières ou des produits, des armes, par exemple, de son propre pays vers d'autres pays. On frappe d'embargo, par exemple.
La vache folle.
Bon, enfin. En revanche, le blocus, c'est ce qu'appliquaient les Anglais à la France de Napoléon.
C'est une mesure guerrière.
C'est une mesure de guerre. On coupe toutes les entrées. Et quand un pays comme l'Irak, qui est en quelque sorte en avance sur l'évolution mondialiste, c'est-à-dire que qui n'a plus qu'une seule ressource unique, eh bien, il suffit de lui couper l'expédition de cette ressource unique, et on le condamne à mort par la faim, par la misère, par la maladie. Voilà.
C'est-à-dire qu'il est incapable de subvenir à ses propres besoins par ses productions, et comme il ne peut plus exporter, il est incapable d'acheter ce qui lui manque à l'extérieur.
Mais c'est amusant de dire pourquoi, et c'est très intéressant, parce que c'est un laboratoire remarquable. Il se trouve que l'Irak, Mésopotamie, se trouve, vous le savez, entre deux fleuves, en tous les cas, est traversée par deux considérables fleuves, le Tigre et l'Euphrate.
D'où le problème que connaissent les poules.
C'est ça. Alors, il y a, beaucoup, beaucoup d'eau, n'est-ce pas ? Et il pourrait y avoir, il y a une certaine agriculture, mais il pourrait y avoir une très forte agriculture. Pourquoi n'y a-t-il pas ? Eh bien, précisément parce que quand la carotte est à 2 francs le kilo sur le marché mondial, il est parfaitement absurde d'en fabriquer à 20 francs le kilo chez soi. Tant que vous êtes libre d'acheter des carottes à 2 francs le kilo sur le marché mondial. Mais quand vous n'avez plus la possibilité d'acheter des carottes à ce prix-là, vous avez bigrement intérêt à être capable de fournir des carottes à 20 francs le kilo. Et ça, c'est un exemple que les Français feraient bien de méditer, car il y a deux ou trois armes mondiales. Il y a d'abord l'arme des armées, l'arme nucléaire, etc. Et il y a l'arme du pétrole, l'arme pétrolière, et il y a l'arme alimentaire. Et nous qui étions un pays d'autosuffisance alimentaire, nous nous laissons dépouiller à la fois par l'Europe, par le GATT, de notre autosuffisance, et nous dépendons de plus en plus, et maintenant presque complètement, des courants d'échange des multinationales, aussi bien en aval de la production agricole qu'en amont, n'est-ce pas ? Et par exemple, les Français savent-ils que le geste protecteur qu'avait autrefois le paysan de mettre 10% de sa récolte de côté pour semer n'est plus possible. Toutes les productions céréalières sont obtenues à partir de productions, de semences hybridées, qui ne se reproduisent pas. Par conséquent, on doit recevoir ces semences de l'extérieur si on ne peut pas les recevoir. Mmh. Il en est de même des engrais, il en est de même du pétrole.
La nourriture des animaux, quand on donne des tourteaux de soja, il faut ensuite donner aux animaux des produits qui activent en quelque sorte le soja, qui sont importés des États-Unis.
On est intégré à un circuit international qui, outre les possibilités de rupture qu'il comporte, de rupture pour des raisons de guerre, pour des raisons de grève, comprend cette possibilité qu'a ou qu'ont certains pays, mais qu'a les États-Unis de gouverner et d'affamer n'importe qui. Comme, disons-le franchement, sont affamés aujourd'hui les Irakiens.
Alors voilà, on y vient. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ?
Alors écoutez, vraiment. D'abord, je crois nécessaire de préciser que ma démarche à moi étant politique, je n'avais pas voulu la faire coïncider avec la visite de l'association SOS Enfants d'Irak, organisation humanitaire dont ma femme est présidente d'honneur et dont Madame Lussan est la présidente, et qui venait apporter là-bas une petite aide matérielle, mais ô combien précieuse, puisque c'était deux ambulances neuves et environ une tonne de médicaments d'extrême urgence. Et ce qui leur a valu, d'ailleurs, le plus beau compliment, on leur a dit, écoutez, nous recevons beaucoup de délégations ici, mais vous êtes la première à nous apporter quelque chose. Les autres nous apportent généralement de bonnes paroles et de bons projets. Alors, ils ont obtenu ça en faisant la quête un peu partout, parmi nos amis.
Et d'ailleurs, Madame Peuge des Femmes d'Europe me signale dans un petit mot que... les femmes d'Europe ont collecté auprès de 130 personnes 14 000 francs. C'est énorme parce que ça veut dire en moyenne 100 francs par donateur.
Lors du dîner débat organisé par Madame Peuc, en effet, je crois que c'est à Caen, eh bien, la quête a donné 14 000 francs, ce qui est tout à fait remarquable et qui montre que quand les gens sont au courant des choses et quand on leur touche le cœur par l'expression de la vérité telle qu'on l'a vue, eh bien, les Français ne sont jamais indifférents. Et je crois que c'est un exemple à méditer. Donc je n'avais pas voulu... eux avaient visité tout ça, mais quand je suis arrivé pour une visite politique, je me suis dit, voilà, si je dis demain... ma femme m'a dit que les bébés mouraient dans les hôpitaux. Jean-Michel Dubois m'a dit qu'ils avaient vu des étudiants français qui n'ont plus de livres, etc. C'est ce qu'on appelle un témoignage de deuxième main. Alors j'ai demandé, comme je rejoignais la délégation là-bas, j'ai dit je voudrais bien voir aussi une partie au moins de ce que vous avez vu. Et je suis allé dans les hôpitaux. Et vous savez, vraiment, moi je suis un ancien officier de Légion, j'étais adolescent pendant la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai été officier en Algérie et en Indochine. Bon, ce n'est pas que je n'ai pas un cœur comme tout le monde, mais ayant le sens de l'intérêt général, je ne me laisse pas toujours toucher par le cas individuel. Vraiment, ça vous arrache les larmes des yeux. Et des gens d'une dignité, personne ne tend la main. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que des regards. Il n'y a que des regards. Les médecins sont des médecins de haute qualité. Ils nous disent, écoutez, il n'y a plus d'anesthésique. On opère sans anesthésie. Il n'y a pas d'eau de Javel, il n'y a pas de désinfectant. Les quatre gouttes que nous utilisons sont des quatre gouttes chinois qui disparaissent au bout de deux jours, ce qui veut dire que les opérés meurent et que tout le monde est sous-alimenté. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de viande, et que les machines modernes qu'ils avaient acquises, notamment en France, s'arrêtent les unes après les autres. Quand on arrive au niveau d'usure, et vous savez comme moi qu'une Cadillac neuve, s'il manque le pointeau de carburateur, eh bien, elle s'arrête. Eh bien, là, par exemple, je prends quelque chose de vécu, l'hôtel. L'hôtel Al-Rachid est un des plus luxueux, un des palaces de cette région. Les draps sont gris, les serviettes de bain sont grises, car il n'y a pas de savon et il n'y a pas de lessive. On les foule aux pieds pour les laver. Bon, au petit déjeuner du matin, je ne parle même pas du café, qui est très au-dessous de ce que j'avais pendant la guerre chez les Gaises, n'est-ce pas ? Et il y a deux tartines de pain avec de la confiture de dattes, car l'Irak est le premier producteur de dattes du monde, heureusement, n'est-ce pas ? Rien d'autre. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas évidemment de brioche, rien de tout ça. Et ça, c'est dans un palace de luxe. Imaginez ailleurs. Il faut que vous sachiez aussi que le dinar, qui valait 3,5 $ avant la guerre, on peut l'acheter aujourd'hui. Pour l'acheter aujourd'hui, il faut 1000 dinars, le dollar.
Pour un dollar.
Ce qui fait que nous avons vu un ami, n'est-ce pas, qui est professeur de droit à Babylone, il gagne 4,5 $ par mois. Le directeur du protocole du ministère des Affaires étrangères de Bagdad, qui nous accompagnait pendant notre visite, touche 4,5 $ par mois.
4,5 $, ça veut dire
25 francs. C'est-à-dire que ce qui vient de l'extérieur...
C'est hallucinant, ce que vous racontez.
C'est hallucinant. Mais enfants, les pommes, les bananes, tout ça, les enfants n'ont jamais... Il y en a au marché. Parce que oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les familles qui avaient un peu de moyens, un peu d'argent, des objets chez eux, etc. Ben, les vendent. Les vendent, n'est-ce pas, on vend un chandelier,
on vend un bijou,
quand on en a, et quand on n'en a pas, eh bien, on crève.
Oui,
car je vous ai dit tout à l'heure qu'il mourait 600 personnes par jour. Ça veut dire qu'il est mort depuis 5 ans, plus d'un million de personnes tuées par la politique américaine. C'est pas un tremblement de terre, c'est pas l'éruption d'un volcan, ce n'est pas une guerre effrayante, c'est l'application glacée de doukas économiques et politiques destinées à briser la volonté d'un peuple. C'est pour ça que ça me lève le cœur et que ça m'indigne et que je trouve quelquefois dans cette situation, ce qui peut étonner certains de mes compatriotes, mais ça ne m'indigne que parce que je suis français et que je m'indigne au nom de la France, ça m'indigne quelquefois plus que des spectacles qui, heureusement, chez nous, n'ont pas cette acuité. C'est vrai qu'il y a des enfants pauvres dans notre pays, mais il n'y a pas d'enfants qui meurent de faim, de manque de lait, de manque de médicaments. J'ai eu en face de moi la femme d'un ministre qui nous a fait la confidence, ce qui montre d'ailleurs le degré de liberté de la conversation entre hommes et femmes. Elle nous a dit, écoutez, moi j'ai subi une opération gynécologique avec comme ça, seule anesthésie de serrer un morceau de tissu entre les dents. Comme on faisait autrefois sur les trois mâts caporniers, où on donnait un coup de maillet
et un coup de rhum
sur la tête des gens à qui on allait couper la jambe. Alors, les enfants, je n'en parle même pas, quand vous mettez à un enfant de trois semaines un trocard qui a été lavé 200 fois, n'est-ce pas, bouilli 200 fois, qui n'est pas à la dimension de ses petites veines, les larmes vous sortent des yeux, quoi.
Mais bon, je vais poser une question qui peut paraître idiote ou incongrue, mais je pense au cas de la France dans une situation semblable. Pendant l'occupation, la France avait eu faim parce que les Allemands emportaient la nourriture, mais si les Allemands n'avaient pas emporté la nourriture, la France était autosuffisante. Donc qu'est-ce qui fait que l'Irak aujourd'hui, on a bien compris que rien ne peut entrer en Irak, mais ça veut dire qu'il ne peut pas entrer d'électronique, de mécanique, de produits manufacturés.
Serge, il ne peut pas de crayon. Il n'y a pas de crayon dans les écoles parce que, selon l'ONU, le crayon étant composé de graphite, il y a des mines de graphite, et avec le graphite, on fait des bombes atomiques.
Je ne savais pas qu'on pouvait faire une bombe atomique avec un crayon.
C'est le cynisme de ces réglementations.
Mais pourquoi ne produisent-ils pas leur propre nourriture? Il y a des vaches en Irak qui pourraient faire du lait, du beurre.
On ne construit pas une agriculture capable de nourrir 20 millions de personnes. Je vous ai expliqué, quand vous avez des produits sur le marché mondial. Et la France était un très gros exportateur de produits agricoles.
La Bretagne en fait quelque chose qui a
particulier. La Bretagne, les poulets, etc. Pourquoi produire des poulets à 10 francs quand vous pouvez les acheter 3 francs à l'importation? Et c'était le commerce international. Et la France y trouvait plus que quiconque son avantage. Et c'est une des raisons aussi, dans l'intérêt mercantile de la France, mais l'intérêt mercantile de la France n'est pas méprisable quand il va dans le sens du progrès, de l'harmonie et de l'élévation du niveau de vie de tout le monde, n'est-ce pas? Et si nous avions le courage, ou peut-être la liberté, d'avoir une politique indépendante et avec modération engager nos alliés, l'ONU, les autres pays du monde, dans la voie de la levée du blocus, qui est la seule solution digne et honnête, eh bien, la France aurait un prestige immense, non seulement en Irak, mais dans tous les pays avoisinants, y compris les pays qui ont fait la guerre contre l'Irak. Car ils ont des solidarités qui vont bien au-delà des conflits, je dirais, contingents, n'est-ce pas? Et moi, je sais qu'aussi bien en Arabie Saoudite qu'ailleurs, je bénéficie d'un certain prestige. Je dis quand même que je rends ce service à mon pays. Je ne suis pas seul, il y a quelques autres personnalités françaises, mais il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec le crime, qui le disent, qui font ce qu'ils peuvent. Nous, nous faisons ce que nous pouvons au Parlement européen, nous faisons ce que nous pouvons avec l'association SOS Enfants d'Irak, nous faisons tout ce que nous pouvons par nos déclarations pour ne pas être complices de ce crime, mais pas seulement pour ça, pour espérer que le monde soit un peu plus juste. Alors quand on nous fait quelle démonstration, dirais-je, que nous ne sommes ni racistes ni xénophobes, et les gens me disent, mais comment peut-on à la fois être contre l'immigration en France et défendre l'Irak? Mais c'est pas du tout contradictoire, c'est tout à fait complémentaire. Nous n'avons aucune inimitié à l'égard des Arabes ni à l'égard des musulmans, et nous aimons les Arabes chez eux, si j'ose dire, sauf bien sûr quand il s'agit des nôtres, quand ce sont nos Arabes à nous, Français. Il est évident que je les considère, moi, comme des Français à part entière, et j'ai lu l'autre jour, là aussi, presque avec une larme, et vous allez dire, Jean-Marie Le Pen, dis donc, en vieillissant, il devient non seulement sentimental, mais sensible, j'ai lu le petit papier de Pierre Darcourt sur l'Arbi Bel Arbi, ah, oui. le porte-drapeau musulman qui vient de mourir à Mantes, et il évoquait l'extraordinaire, l'admirable histoire, l'héroïque histoire des porte-drapeaux de Mostaganem, car pendant la guerre d'Algérie, il a été assassiné 7 porte-drapeaux les uns après les autres, et il s'est toujours trouvé un vieux soldat français musulman pour porter le drapeau de Mostaganem que l'Arbi Bel Arbi a ramené en France, n'est-ce pas? Eh bien, ça nous obligerait à respecter et à aimer les Français musulmans qui ont été fidèles à la France à ce point d'héroïsme et de don de soi. C'est presque une page d'anthologie de la fidélité à la patrie.
Quand j'étais gosse, j'étais en classe avec un jeune qui s'appelait Bella, enfin un garçon, un jeune Algérien, français, puisque à l'époque c'était la France, qui s'appelait Bella Ribi, et dont le père traversait en pleine guerre d'Algérie le bidonville de Nanterre, où il y avait toutes les nuits une dizaine d'assassinats par égorgement. Tous les jours, il allait travailler, et pour traverser le bidonville, en sortant, parce qu'il habitait le bidonville, bien entendu, et en sortant de son gourbi dans le bidonville, il affichait toutes ses décorations françaises. Il avait la croix de guerre, la médaille militaire, la médaille. Il avait combattu à Cassino, etc. Et il traversait tout le bidonville de Nanterre avec ses décorations. Et ma mère qui le soignait lui disait, mais Bel Arbi, ils vont vous assassiner un jour. Ils vont vous tuer, vous savez. Bah, ça n'a pas manqué, évidemment. Ils ont fini par le tuer. Ouais. Mais ce type savait qu'il allait mourir et il a fait ça pendant toute la guerre d'Algérie.
C'est ça pour magnifique. Bien repréciser que les électeurs du Front National sont des gens qui sont des patriotes français, mais le patriotisme français n'inclut pas l'injustice, n'inclut pas le mépris des autres. Il y a une hiérarchie des valeurs, il y a une hiérarchie des sentiments, comme je dis, j'ai mieux mes filles que mes nièces.
Ça, je crois qu'il y a
mes nièces que mes cousines.
Je crois qu'il y a que l'intelligentsia dite intelligentsia française qui croit ça. Oui. Il n'est que d'aller dans les pays arabes, moi ça m'arrive, ou d'aller au Maroc, et on peut se dire du Front National, ça vous ouvre des portes plus qu'autre chose.
Un auditeur, je suis étranger, je ne me mêle pas de politique en France. Je remercie pourtant tous les Français qui s'élèvent contre le génocide du peuple irakien conduit par les États-Unis. Et il ajoute, ce qui est amusant, France non comprise. Ce qui veut dire que dans son esprit, d'une certaine manière, la France fait déjà partie des États-Unis. Et l'histoire n'oubliera pas l'honnêteté de cette défense. Signé un auditeur arabe. C'est... Voilà.
Que ne font rien de ce que l'on fait n'est inutile. Il n'y a que l'inaction et le silence qui soient criminels.
Alors Jean-Marie Le Pen, je crois que on a bien compris votre position à propos de l'Irak, on l'a bien entendu. Ce que je voudrais savoir, c'est si le travail entrepris par certains militants, certains adhérents et sympathisants du Front National à travers l'association SOS Enfants d'Irak, qui est présidée par Jeannie Le Pen, si ce travail va continuer, sous quelle forme, et éventuellement ce que peuvent faire les auditeurs qui voudraient aider.
Eh bien, l'association SOS Enfants d'Irak recueille de l'argent pour continuer, on est obligé de se spécialiser un peu, voyez-vous, pour continuer à fournir des ambulances, les deux grands hôpitaux d'enfants, qui sont des hôpitaux, qui étaient des hôpitaux ultra-modernes il y a quelques années, n'ont plus comme ambulance que celles que nous avons apportées. Et en arrivant, nous en avons vu une à la porte, on dit, mais comment, vous avez donc des ambulances? On nous a dit, oui, mais celle-là, elle ne marche pas, mais on la met là pour rassurer les gens, pour qu'ils croient qu'il y en a une. Alors, les besoins sont immenses, et nous n'avons pas d'illusion. Ce que nous faisons, tout ce que nous ferons est utile, parce que la goutte d'eau, pour celui qui meurt de soif, c'est quelque chose, ou la gorgée d'eau. Mais la vraie bataille est une bataille politique, mais en attendant... Comme en toute hypothèse, il faudra des mois et des mois avant que l'économie irakienne ne permette aux gens de s'arracher à la misère et à la mort, eh bien, nous faisons ce que nous pouvons. L'association recueille des fonds, elle recueille des dons par exemple de médicaments, de matériel chirurgical, de toutes sortes de choses qui sont susceptibles de lutter contre la malnutrition, contre les maladies, n'est-ce pas, et en particulier les maladies des enfants, et pour avoir des anesthésiques, ce qui est absolument indispensable. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut acheter avec de l'argent en Jordanie, à côté, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas la peine de les transporter d'ici. Mais il y a aussi ce qu'on ne trouve pas en Jordanie, et il faut aussi franchir les barrages, ça c'est pas très facile, parce qu'il y a des contrôles extrêmement stricts. Je vois par exemple, nous avions 100 kilos de matériel extrêmement sophistiqué sur le plan chirurgical, y compris des ampoules de cyanitique. Un cyanitique qui n'a plus d'ampoule, vous ne pouvez plus opérer, n'est-ce pas? Bon, et toutes ces choses-là qui manquent les unes après les autres, des scalpels, des choses comme ça. Eh bien, notre envoi a été bloqué pendant 15 jours parce que le transitaire avait regroupé les pièces de rechange des voitures neuves que nous avions apportées, mais par précaution, on avait des pièces de rechange, et avec le matériel chirurgical. Or, les pièces de rechange, c'est un matériel stratégique qui doit être soumis à contrôle, autorisation, vérification, etc. Alors que le matériel chirurgical passe plus facilement. Mais nous avons amené des kits avec on en a amené, je crois, 200 ou 300, avec un cahier, un crayon, un taille-crayon, une gomme, etc. Parce que ce sont des objets précieux, tellement précieux que les étudiants français... On comptait donner ça aux petits-enfants à l'école. Mais les étudiants français de l'université nous ont dit, écoutez, est-ce que vous n'en auriez pas quand même quelques-uns pour nous? Parce qu'il n'y a pas de papier, parce qu'il n'y a pas de crayon, parce qu'il n'y a pas de stylo, n'est-ce pas? Alors, les étudiants en droit, ils m'ont dit, ils n'ont même plus de livres en arabe. Ils n'ont plus de livres en français, ni en anglais. Je dis franchement, que moi, j'ai été adolescent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, notre sort pendant la Deuxième Guerre mondiale, hormis les persécutions et les répressions spéciales, si vous voulez, mais le sort du peuple français était sans commune mesure avec le sort qui est fait en dehors de la guerre, car c'est la paix qui est... Il n'y a pas l'excuse de la guerre. Non, l'Allemagne était en guerre, elle prenait, comme vous le disiez tout à l'heure, toutes les ressources dont elle avait besoin, mais il faut aussi dire honnêtement, c'est la vérité, que le soldat allemand ne se gobergeait pas et qu'il mangeait un espèce de brouet touillé avec les pommes de terre et la viande à midi.
Il mangeait comme chez lui, quoi.
Mais vraiment, très modestement, il ne se roulait pas dans le champagne.
Ah, bah pourtant, on voit bien que vous n'allez pas souvent au cinéma.
Je me dois à l'honnêteté de le dire, je sais bien qu'en disant là, je risque de tomber sous le coup de la loi Guesso, mais moi, n'importe comment, j'ai toujours dit ce que je pensais, et j'ai dit la vérité quand je l'ai vu et quand j'y crois.
Roger Olyndre s'est fait prendre un jour ici pour avoir dit dans cette émission qu'il était stupéfait par l'exactitude des soldats allemands qui résidaient dans une caserne de pompiers à côté de chez lui, qui sortaient tous les matins à la même heure, et le lendemain, dans je ne sais plus quel torchefion de la presse française, il y avait Olyndre célèbre l'armée allemande sur Radio Courtoisie.
Olyndre avait pris une mitrailleuse allemande
À l'âge de 16 ans.
À l'âge de 16 ans, oui. Ce que le rédacteur de l'article en question n'a pas fait, probablement son père, ni son grand-père.
Si vous le voulez bien, bon, vous êtes venu pour nous parler ce soir de l'Irak, mais je vous demanderai la permission d'évoquer d'autres questions, parce qu'il y a plusieurs sujets brûlantes dont on pourrait parler. Avant, simplement, deux messages. Alors, le premier est personnel. Je signale que le dîner chez la mère agitée est rétabli ce soir. On ne l'a pas fait depuis quelque temps. Donc, les auditeurs qui voudraient nous rejoindre aux 21 rue Campagne Première après l'émission peuvent le faire. Parce que nous irons dîner là-bas. Le triangle est de 150 francs. Alain, tu te joindras à nous ?
Non. Tu sais que j'ai des horaires. Voilà, j'ai des horaires.
Et le président Le Pen a d'autres obligations. Donc, vous ne serez pas avec nous, Jean-Marie Le Pen, pour dîner ce soir chez la mère agitée.
Malheureusement, non. Non, je dîne avec les défenseurs du droit et de la liberté. Ce
ben
soir,
nous aussi.
Avec Maître Biagi.
Bien la petite quinte. C'est moi, c'est mon rôle, ça, vous me prenez mon dialogue, Victoria.
Les polars. Alors,
il y a un auditeur, je ne sais pas s'il le dit d'une façon...
Et vous me prenez mes papiers.
Direct ou indirect, bah tiens, dites-le donc, vous, parce que vous êtes mieux que moi.
C'est pour sourire un peu dans cette chose, ce drame. Pourquoi une poule ne peut-elle jamais pondre en Mésopotamie?
Ah, ça c'est nouveau. Non,
parce
ça c'est
qu'elle
un moyen...
voit le tigre et le
oui, c'est un moyen mnémotechnique qu'on avait quand on était petit et qu'il y avait encore des humanités.
Voilà.
Entre le tigre et l'Euphrate.
Mais cet auditeur dit aussi que...
Écoutez, c'est une révélation pour moi.
Ah bon.
On apprend à tout âge.
Voilà. On apprenait en sixième quand on apprenait la Mésopotamie.
Voilà.
Chez les jésuites.
Ah, voilà.
Alors, il y a eu beaucoup d'appels sur la question kurde et beaucoup d'appels sur la question scud.
Ah oui.
Est-ce que vous voulez en dire un mot?
Oui, volontiers.
Les deux, les Kurdes et les Scuds.
Absolument, oui. Oui, alors sur les Kurdes, d'abord, il faut situer le problème, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle le Kurdistan, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'endroit où vivent les Kurdes, puisqu'il n'y a pas de pays kurde, il n'y a pas de nation kurde, ça comporte 32 millions d'habitants. Il faut savoir qu'il y a 2 millions de Kurdes syriens, 4 millions de Kurdes irakiens, 8 millions de Kurdes iraniens et 16 millions de Kurdes turcs. C'est facile, 2, 4, 8, 16. Ces Kurdes sont évidemment très divisés entre eux et les 4 millions de Kurdes font partie de l'Irak. Mais c'est une ethnie différente, traversée
par des courants politiques plus ou moins, je dirais, autonomes. Certains sont entretenus ou suggérés, mais le grand problème kurde, c'est surtout les Turcs qui l'ont, parce que ils ont 16 millions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sort des Kurdes est le plus favorable en Irak. Ils ont des droits qu'ils n'ont dans aucun des autres pays, n'est-ce pas ? Et ils ont des représentations. Il y a des ministres kurdes dans le gouvernement de Saddam Hussein. Il ne faut pas croire que tous les Kurdes sont indépendantistes, ni que tous les Kurdes sont des adversaires du système. C'est très complexe. C'est un de ces problèmes qui probablement ne recevra jamais de solution.
Mais ils ont quand même été massacrés par bombes à gaz.
Ça, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas assisté à ça et je ne me porte garant que des choses que j'ai vues moi-même ou dont je suis certain pour les avoir recoupées de sources contradictoires et différentes. Mais s'il y a eu des guerres, s'il y a eu des répressions, c'est probable. S'il y a eu des soulèvements. Il faut savoir que le Parti communiste kurde, le PKK en particulier, est un parti qui se livre à des exactions terroristes d'une cruauté, d'une férocité
y compris
terrible.
En Europe.
Oui.
Et en France, ils s'affichent en France.
Et en Allemagne.
Ce qui est terrible, c'est que nos commentateurs, nos exégètes, nos journalistes veulent toujours juger des choses à la norme d'Asnières ou de Gennevilliers, n'est-ce pas ?
Et souvent de Neuilly.
C'est plutôt l'inverse qui revient d'ailleurs. C'est bientôt Gennevilliers qui va ressembler au reste du monde. Mais ce sont. Et puis encore une fois, c'est une dictature militaire, n'est-ce pas ? Bon, ce n'est pas la première qu'il y a dans le monde. Il en est d'autres. Mais il semble que là aussi ce soit à géométrie variable, qu'il y ait des bonnes dictatures et qu'il y en ait de mauvaises. Et je dois vous dire à ce propos, parce qu'on ne me l'avait pas demandé, mais je vais le dire, parce qu'on m'a
de
dit...
De Gaulle faisait ça déjà.
Alors, monsieur Le Pen, alors, puisque vous êtes contre le blocus de l'Irak, est-ce que vous êtes pour le blocus de Cuba ? Et je réponds non. J'étais pour le blocus de Cuba, quand Cuba représentait une menace militaire
qu'il y avait l'URSS.
Pour le monde libre, parce qu'il y avait les fusils russes. Qu'on ne me dise pas aujourd'hui que Cuba représente une menace pour qui que ce soit. Je crois même que c'est le blocus qui maintient Castro au pouvoir. Castro, dont il faut se souvenir quand même que ce sont les Américains qui l'ont amené au pouvoir, n'est-ce pas ? Bon, et je crois que si il n'y avait pas le blocus de Cuba, eh bien, je crois que Castro n'en aurait pas pour longtemps.
Mais les Américains seraient bien embêtés s'il n'y avait plus Castro.
Sans doute, mais exactement. Je crois qu'il y a des gens, c'est un petit peu comme l'antisémitisme en France. Il y a des choses dont on a besoin pour justifier...
Le syndrome du golem.
C'est un petit peu comme Kadhafi pour Israël à une époque.
C'est ça. Et quand ça n'existe pas, on l'invente.
Alors, on avait dit...
La
question SCUD, parce que beaucoup d'auditeurs, enfin, plusieurs auditeurs, nombreux d'ailleurs, nous disent, oui, enfin, bon, tout ça est très joli, mais enfin, l'Irak n'est quand même pas... c'est pas un doux agneau, ils ont quand même envoyé des SCUD sur Israël, et Israël avait bien le droit de se défendre, même préventivement, en bombardant aux Iraks.
Ah non, mais c'est autre chose.
Je note
simplement que Israël n'a pas participé à Tempête du Désert. Israël n'a pas participé à la guerre du Golfe.
Alors
il y a eu des scuds, c'est vrai.
Il
semble d'ailleurs que les dégâts aient été extrêmement modestes. Mauvaise pub pour le SCUD. Et que ce soit...
surtout les patriotes qui ont été plus...
Plutôt une espèce de bombe psychologique et politique qu'autre chose. Je ne dis pas d'ailleurs qu'elle ait été bien utilisée et bien placée. Mais tant mieux d'ailleurs pour ceux qui les recevaient. Mais ça me fait penser un petit peu, si vous voulez, à la riposte que pratique souvent l'armée israélienne à partir des bombardements des Hezbollah, n'est-ce pas ? Il y a eu des centaines, enfin plus de 100 morts lors des dernières ripostes, alors que je ne suis pas sûr qu'il y ait eu même un seul mort. Vous me direz, un seul mort, c'est un mort de trop, mais pour moi, c'est un mort de trop de quelque côté de la frontière qu'il soit. N'est-ce pas, je n'ai pas dans ce domaine-là de sélectivité. Tout ça, et la guerre est toujours une chose terrible, comme la mort, la maladie, le cancer de la gorge et la grêle, n'est-ce pas ? C'est sûr que nous sommes contre tout cela. Mais ça n'amène pas la fin de ces fléaux, malheureusement. Alors quand ces fléaux dépendent de nous, c'est là que nous avons une obligation morale. Bien, alors comme prévu, on va, si vous voulez bien, parler maintenant rapidement de deux sujets qui sont dans l'actualité française immédiate. Le premier que je voudrais évoquer avec vous, c'est vraiment, passez-moi l'expression, l'impudence dont vous faites preuve en prétendant bénéficier, comme n'importe qui, de la loi sur le droit de réponse. Parce que, apparemment, moi, je suis, en tant que journaliste, je suis solidaire de mes confrères du Monde, qui trouvent que vraiment, c'est déjà, bon, c'est scandaleux que d'être obligé de publier les droits de réponse de M. Le Pen. Hein, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Vous n'avez pas un peu honte d'utiliser la loi quand elle est en votre faveur?
Oui, c'est ça. Je m'appuie sur la loi, je sais que c'est tout à fait reprochable. Mais je voudrais rappeler à ceux qui glosent ou qui ratiocinent sur le droit de réponse, l'usage du droit de réponse, l'abus du droit de réponse, le texte de l'article 13 de la loi 1901 qui dit... Que le droit de réponse est ouvert à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou une publication. Il peut exiger l'insertion d'une réponse, même si elle est présentée sous un jour favorable. Autrement dit, à partir du moment où un journaliste intervient et met en cause une personne, celle-ci reçoit une ouverture de droit,
un crédit
d'expression. Et j'ai lu d'ailleurs, il faut bien le dire, dans Libération, qui nous traitait si mal il y a deux jours, un grand article d'un professeur de droit, je crois, qui était en faveur de l'extension du droit de réponse. Or, c'est très clair, je suis mis en cause, le mouvement que je préside est mis en cause dans un certain nombre de journaux. Je n'ai pas de quotidien, je n'ai un accès modeste à la radio et presque nul à la télévision, et quand l'article de surcroît met en cause gravement notre dignité, notre intégrité, notre réputation, je réponds dans les termes de la loi. Le journal en question refuse de m'appliquer le droit. Je vais devant les tribunaux. Les tribunaux lisent le droit, disent le droit et condamnent ces journaux. Immédiatement, cri d'orfraie de ceux qui sont des partisans de la démocratie à sens unique. Alors on trouve là, bien sûr, toujours les mêmes, la LICRA, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, le Parti Socialiste,
chocolat.
N'est-ce pas, le Libération et le Monde, et qui mélange d'ailleurs les choses, parce que on me fait querelle maintenant de faire des droits de réponse sur l'extrême droite. Voilà. Bon. Car c'est vrai que nous récusons le terme d'extrême droite et que nous demandons à être appelés sous notre dénomination. Le Front National a 21 ans. Bon, ben, quand on parle du Front National, on dit le Front National. Pourquoi l'extrême droite? Et là, on retrouve la discussion de tout à l'heure sur l'incitation subliminale. Chaque fois qu'on utilise le terme d'extrême droite, c'est dans des circonstances de violence, de crime. Ce sont des images de sang, d'incendie, de coups, de brutalité. Oh, le mot est quelquefois à peine évoqué. Il y aurait une piste d'extrême droite. On ne s'étonnera pas qui est l'extrême droite. On n'en sait rien. Où commence-t-elle? Où finit-elle? Ce que je sais, c'est
toujours
que
à chaud sur des images terribles.
Toujours à chaud. Et après, il suffit d'accoler extrême droite à un mouvement et à un seul. C'est le Front National qui est l'extrême droite. Or, le Front National, pourtant, n'est pas réductible à ces images, ni à ces violences, ni à ces formules. Mais dans l'esprit des téléspectateurs, surtout des téléspectateurs ou des auditeurs, plus encore que des lecteurs, se crée un amalgame qui, en l'occurrence, est soigneusement recherché. Moi, j'ai lu des articles du Monde dans lesquels il est rappelé à chaque fois qu'on met Front National qu'il est d'extrême droite. À moins que les lecteurs du Monde soient particulièrement obtus, ils ont dû comprendre ça dès la première citation. Alors, pourquoi le faire 10 fois, n'est-ce pas? Alors, nous avons demandé à être appelé sous notre dénomination. D'autant que l'extrémisme de droite, n'est-ce pas, l'extrême droite, donne extrémiste de droite, alors que l'extrême gauche donne gauchiste. On devrait dire droitiste, mais ce n'est pas innocent. On dit extrémiste. Et on dit extrême droite. Ça suppose tout de même une idée, un concept d'extrémisme. Or, j'affirme que nous ne sommes extrémistes ni dans notre doctrine, ni dans nos méthodes. Alors à ce moment-là, la dernière défense des tenants de ce droit, de dire « mais ça n'est dans le fond qu'une dénomination géographique ». C'est parce que au Parlement, le Front National est d'extrême droite, est placé à l'extrême droite. Et autrement dit, dois-je comprendre que les élus RPR et UDF qui aujourd'hui siègent sur les bancs où nous siégions en 1986 sont aussi des formations d'extrême droite? Et s'il en est ainsi, pourquoi ne les dénomme-t-on pas comme ça? Je note que le parti de Jirinovski, qui siège à la Douma au centre, est pourtant qualifié d'extrême droite. C'est donc bien qu'il y a une autre acception que l'acception géographique. Ça me rappelle, si vous voulez, la défense de M. Bedos ou de M. Siné, quand ils nous injurient et nous insultent, disent « Oui, mais ce n'est pas beaucoup
d'importance. » On est des clowns.
Nous sommes des clowns, de pauvres clowns qui faisons rire, etc. Ce qui ne les empêche pas de monter sur les tribunes des partis politiques pour réserver leurs agressions clownestes exactement toujours aux mêmes personnes et dans le même sens.
Donc il faut s'attendre à avoir surabondé les droits de réponse du Front National.
Non, nous n'abusons pas de notre droit, mais chaque fois que nous estimerons devoir le faire, il faut que s'établisse là, par consensus, une espèce de déontologie entre les droits des journalistes et les droits des citoyens. Parce que certains interprètent la liberté de la presse comme la liberté de la presse et des journaux de dire ce qu'ils veulent sans qu'on puisse leur répondre. Mais la liberté de la presse est à double sens. Elle implique le respect des lecteurs et le respect de leurs droits dans l'échange que crée justement le droit de réponse. Autrement dit, s'il n'y avait pas ce droit de réponse, quelqu'un qui ne dispose pas d'organes médiatiques, eh bien, n'aurait aucune chance de pouvoir faire entendre sa voix. Parce que quand Le Pen expose en réponse les principes, le programme du Front National, on dit il fait de la propagande, mais qui peut mieux parler que moi de ce qu'est le Front National? Je n'explique pas ce qu'est le Parti communiste dans mon droit de réponse. Je ne dis pas ce que je pense du Parti socialiste.
Au demeurant, le droit de réponse pourrait être refusé dans ce cas-là.
Ah oui,
vous n'avez pas le droit de mettre en cause des tiers.
Oui, si, non, c'est pas exact qu'on puisse pas mettre en cause des tiers. Il faut pas les mettre en cause
de façon injurieuse
ou malveillante.
Je signale que présent à son niveau est dans le même cas, puisqu'on se bat contre Le Monde et contre Libération, et on vient de gagner contre Libération, puisque Libération d'hier a publié le droit de réponse de présent, puisque nous récusons nous aussi le terme d'extrême droite, parce que extrême droite à l'heure actuelle, ça veut dire nazi, ça veut dire raciste. Ça veut dire, c'est nous accuser d'un délit, puisque c'est un délit, compte tenu de la loi Guesso communiste. C'est un véritable délit. Et Le Monde est d'autant plus furieux qu'il refuse les tribunes libres à Jean-Marie Le Pen, et qu'il s'était vanté sur une page entière que jamais on ne passerait quoi que ce soit d'un doigt de réponse sur ce sujet-là.
Je crois que Le Monde est furieux aussi.
Il y a une hystérie totale. Libération, c'est impensable, à consacrer lundi 4 pages entières. Je ne parle même pas des dessins qui sont immondes. Et ça, c'est habituel. C'est les cacas habituels des dessinateurs de Libération qui font sous eux. Mais 4 pages entières là-dessus, c'est donc que ça les touche et c'est donc que c'est important.
Oui. Je crois que Le Monde est aussi pas très content du droit de réponse que Jean Madiran a obtenu aussi après un an de procédure et qui oblige Le Monde à reconnaître
qu'il a bel et bien publié le fameux communiqué
des Bnaïbrit,
faisant état du serment.
Le Monde avait fait une erreur. Il y avait le titulaire, l'intelligent du jour n'était pas là ce jour-là, et ce communiqué qui était sans doute à usage interne sur les Bnaïbrit, qui s'engageaient à ne jamais, qui disait que
rappelait l'engagement.
Voilà, RPNDR s'engageait.
C'est passé. Dis-le clairement, cher ami, qui rappelait l'engagement pris par les chefs de l'UDF et du RPR,
de ne jamais
s'allier avec le Front National.
Or, engagement pris devant les instances du Bnaïbrit, franc-maçonnerie internationale, institution israélite internationale, donc supranationale, c'est quand même une affaire énorme. Ça.
Or, ça n'était pas un communiqué fait pour être passé dans le monde, mais simplement sous forme d'information. Et il est passé. Et alors là...
André Figueras.
Oui, je voudrais ajouter un mot dans le sens de ce que disait Jean-Marie à l'instant. Je fais un procès au nommé Konopnicki, qui m'a traité d'ancien collabo. Et alors, Georges-Paul Wagner m'a téléphoné hier soir pour me dire quels avaient été les éléments de preuve qu'il apportait. Et la principale, c'est ma photo en train de dédicacer au BBR. Oui. Voilà ce qui prouve que
mais il sait peut-être pas que l'occupation est terminée.
Il sait peut-être pas que vous êtes décoré de médailles résistantialistes ou résistantes.
Non, résistantes.
Mais il ne l'a pas trouvé dans le Wuzhou non plus. Le Wuzhou, c'est sa Bible. Bon, alors il a beaucoup d'éléments pour me confondre. Maintenant,
je crois
il va voir le reste.
Il n'a pas perdu sa journée.
J'ai l'impression que si tous les gens qui ont été diffamés c'est mon cas. Par monsieur Konopnicki,
il y en a quelques-uns.
Au fond des procès, de Noël n'a plus qu'à déposer le bilan.
Ça va leur coûter cher.
On s'en plaindra pour beaucoup d'ailleurs. L'autre affaire d'actualité, tout le monde l'a à l'esprit, c'est cette incroyable, sinistre affaire de la profanation du cimetière de Toulon, d'une tombe catholique dans le cimetière de Toulon. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, Jean-Marie?
Oui, je crois que ce genre de comportement et de délit est malheureusement banal. Mais il est assez courant, mais ne constitue pas un événement. Il y a toujours comme ça la vie, la mort, les esprits troublés, les croyances tordues, débouchent à un moment donné, surtout dans un monde laxiste, sans règles et sans sanctions, sur des spectacles assez ignobles comme ceux-là. C'est parce que notre civilisation est profondément respectueuse de la mort qu'elle est chez nous ressentie, mais il y en a d'autres dans le monde d'ailleurs, avec une horreur particulière. Mais ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que quand on la compare à Carpentras, et nonobstant ce que dit Monsieur Moreau de France Soir sur le sujet, qui fait d'ailleurs des aveux naïfs, n'est-ce pas, c'est que on se souvient tous de ce qu'a été le formidable ourvari de proscription lors de l'affaire de Carpentras. L'affaire de Carpentras, parce que ce qui est banal, c'est de briser les croix. Malheureusement, c'est comme ça, de renverser les croix. Ce qui n'est pas banal, c'est d'insulter les cadavres, de les sortir de terre et de les outrager. Or, l'outrage fait à un cadavre dans le cimetière de Carpentras aurait pu et même dû déclencher une légitime indignation. Celle-ci s'est transformée en une foire médiatique orientée contre la chasse à l'homme, contre le Front National. Et ceci de la responsabilité d'abord du ministre de l'Intérieur, qui a dit, ce n'est même pas la peine de chercher des coupables, un ministre de l'Intérieur, nous les connaissons, ils s'appellent xénophobie, racisme, etc., suivez mon regard, tout le monde comprenait, c'est le Front National. Et immédiatement après, il y a eu une manifestation très importante à Paris,
Sans précédent.
Après toute une série d'articles, d'éditoriaux, d'adjurations, et de condamnations des partis, des syndicats, des églises, une manifestation où, pour la première fois dans l'histoire de la République, le président de la République descendait dans la rue. Il n'y était pas seul, il était derrière une forêt de drapeaux israéliens et devant tout le gouvernement, n'est-ce pas, tous les ministres, les députés de la majorité, les députés de l'opposition, avec M. Chirac tenant M. Juppé par le bras, et M. Tiberi, et beaucoup d'autres, les syndicats, les églises, tout le monde est venu pleurer. Et l'autre jour, j'ai noté que pour les moines, on avait fait le même type de cérémonie en invitant pas le Front National. J'ajoute que j'y étais à la manifestation de Paris, sous la forme d'une baudruche énorme, empalée, sur laquelle il y avait marqué « Carpentras, c'est moi ».
Mais c'est même le seul empalé de cette aventure.
Oui, mais ça s'est traduit dans le pays par une campagne de proscription inouïe. Non seulement les militants du Front National ont été arrêtés, quelquefois raflés à leur travail, avec les menottes aux mains, on les a emmenés hors de leurs usines, de leurs ateliers, de leurs bureaux, n'est-ce pas ? On a fait des perquisitions dans les locaux de nos mouvements et d'autres mouvements. On nous a, à partir de là et à l'instigation des grands-mères, les Carignons, les Noirs et autres, on nous a interdit des salles, les manifestations. Nous avons été montrés du doigt, désignés à la vindicte publique. Et cette diffamation géante, ce mensonge d'État n'a jamais été réparé. Bon. Puis arrive un événement identique, à l'identique. Un mort, ou plutôt une morte, exhumée, avec même quelque chose qui n'existait pas dans l'affaire de Carpentras, car dans l'affaire de Carpentras, il n'y avait pas de signe d'antisémitisme, à ceci près que la victime était juive, mais il n'y avait aucun signe, aucun outrage,
inscription.
Alors que là, il y a
crucifié. C'est signé.
Le crucifix est plongé dans le cœur, c'est d'ailleurs ce qui a permis d'attraper les gens en question. Tout le monde se rend bien compte que d'une part, il y a une dérive de pauvres cinglés, n'est-ce pas ? Mais que l'affaire de Carpentras, contrairement à ce qu'on suggère, est une affaire politique, montée par un commando aux ordres des politiciens, et j'y trouve une preuve. Non seulement dans l'exploitation politique qui a été faite, mais dans la date à laquelle cela a été fait. Cela a été fait le 8 mai, jour où l'on croyait que Le Pen allait parler à la télévision, mais ils ont été pris à contre-pied car je n'épargnais que le 9, c'est-à-dire le lendemain de cette profanation. L'argument était, Le Pen parle, et immédiatement les bêtes immondes tuent les cadavres juifs à défaut de pouvoir tuer les vivants. Et c'est le moment où passe la loi Guesso, et c'est grâce à cela que la loi Guesso va passer. Et donc, is fecit qui prodest, ceux-là l'ont fait, à qui ça a profité. Alors, j'ai souligné la disproportion énorme qu'il y avait dans la prise en compte de deux événements qui auraient dû rester sur le même plan. Soit on traitait cela par le recueillement et la prière dans les deux cas, soit on réservait à l'outrage fait aux chrétiens le même sort et la même importance que l'outrage qui avait été fait aux juifs.
Merci Jean-Marie Le Pen. Le dernier mot à un auditeur qui dit qu'il a fallu 6 ans pour ne rien trouver à Carpentras, 3 jours pour tout trouver à Toulon. Cherchez la différence. À Toulon, l'entrée dans le cimetière a été immédiatement interdite pour que la police fasse son travail. À Carpentras, le ministre de l'Intérieur avait rassemblé les foules sur le lieu du crime.
Jacques Stérien. Oui, je crois qu'il faut être parfaitement honnête. Je crois que c'est le procureur de la République qui est arrivé le premier dans le cimetière, a constaté qu'il n'y avait plus aucune trace. Ce qui renforce ma thèse que l'opération n'a pas été faite par des petits partousards et des petits rigolos, mais bien par des professionnels qui ont fait ce qu'il fallait pour ne jamais être pris.
Merci Jean-Marie Le Pen.
Jean-Marie Le Pen, une échéance électorale. Je vous redonne la parole, Victoria. Mais je voudrais en parler deux minutes, puisque Jean-Marie Le Pen est resté avec nous. Il y a une échéance électorale, là, c'est
oui, dimanche. À Malakoff, dimanche. J'invite tous les Français à venir apporter leur suffrage à notre ami Rakitic, qui est candidat. Rakitic a été très gravement blessé lors d'une agression politique dans des élections précédentes. C'est un garçon extrêmement courageux, extrêmement volontaire, et il mérite qu'on se dérange pour l'appuyer.
Il y a d'autres questions auxquelles vous pourriez répondre.
À propos de SOS Enfants d'Irak, peut-on apporter à l'association de la nourriture séchée, comme de lait en poudre, des sachets de chocolat et des choses de ce genre?
Oui, mais alors ce sont des produits qu'on peut se procurer avec de l'argent en Jordanie, et c'est moins important, mais c'est mieux que rien, on frettera ce qu'il faut, fera des containers pour en envoyer, bien sûr, mais ce sont plutôt les médicaments d'urgence et de l'argent pour acheter de nouvelles ambulances ou acheter des produits comme le lait, parce que là, il n'y a que la frontière à traverser.
Et puis, à la suite de votre voyage en Irak, avez-vous été interviewé par des télés ou des journaux étrangers? Et vos propos, vos observations ont-elles pu être diffusées aux USA?
Tout à fait. Aussi bien ma femme que moi-même, nous avons été interviewés par CNN et par ITV, n'est-ce pas, une télévision britannique, et de nombreuses autres télévisions. Et en effet, je crois qu'une partie de l'interview est passée. J'ai d'un autre côté pu parler sur le réseau de Free America, qui comprend 400 stations, un peu comme Radio Courtoisie, dans l'ensemble des États-Unis.
En France, rien. En dehors de Radio Courtoisie.
Non. Ah, bah, si, j'ai tout de même sur comment ça s'appelle, LCI. LCI, j'ai 10 minutes ou 12 minutes.
C'est tout, Victoria.
Il y avait des questions, beaucoup de questions, mais on était en dehors des grands sujets actuels.
Voilà.
Il faudra peut-être que Jean-Marie Le Pen revienne.
La semaine prochaine.
Du succès remporté aux élections syndicales, aussi bien que ce soit police que locataire. Le Front National s'inscrit en deuxième ou en troisième position au bout de 15 jours de campagne.
Il y a des FN dans mon HLM, le champion Renault.
Absolument. Alors, voilà, on ne faut pas malheureusement répondre à...
FN contre la haine.
Et puis le syndicat FN et RATP qui a été refusé par le tribunal.
Ah oui, ça c'est un long débat. C'est la question du syndicalisme et de la novation du syndicalisme à laquelle nous sommes en train d'assister. Le syndicalisme actuel ne correspondant plus aux problèmes réels qui se posent aux travailleurs, eh bien une demande se crée. Ce n'est pas une démarche du front vers le milieu syndical ou sur le terrain social, c'est une demande qui s'exprime d'organisation des travailleurs face en particulier aux problèmes d'insécurité que les syndicats de gauche ne peuvent pas traiter, car philosophiquement, ils sont en faveur des causes de cette situation, de l'immigration, du laxisme judiciaire et juridique, et par conséquent, il est toute une voie royale s'ouvre en quelque sorte aux idées nationales et à la préférence nationale. La défense des travailleurs passe avant la défense des syndiqués. C'est exactement comme pour le sida, n'est-ce pas, l'intérêt va vers les sidaïques ou sidéens, et nous n'avons en revanche aucun intérêt ni aucune considération pour les sidaïstes, parce que s'il y a des gens qui meurent du sida, il y a aussi des gens qui en vivent, et cela ne nous intéresse pas beaucoup.
Merci Jean-Marie Le Pen.
Et nos auditeurs qui savent tout nous donnent l'adresse, c'est 17 boulevard Beauséjour.
Voilà, c'est merveilleux, 17.
Et le téléphone, c'est 45 27 43 47.
Voilà, 17 boulevard Beauséjour. En revanche, la mer agitée, je vous le rappelle parce qu'on va y partir dans quelques minutes, c'est 21 rue Campagne Première. Si vous voulez réserver, je crois qu'il reste des places, 43 35 56 64. 43 35 56 64. Venez donc dîner avec nous, on s'amuse bien. En général, on chante, on dit des bêtises, c'est très sympathique.
Et un auditeur suggère d'appeler ceux qui ont défilé pour Carpentras des Carpentracistes.
Très joli. Je vais prendre Marc Dem tout de suite, je lui demande de patienter. André Figueras, vous avez eu la gentillesse de venir, je vous avais prévenu que vous risquiez de ne pas pouvoir parler longtemps. C'est déjà évident. Que je prends du temps à Daniel Amiche. Simplement, vous serez dimanche
à la revente de Radio Courtoisie, à la fête de Courtoisie, et j'y apporterai quelque chose d'exceptionnel et d'unique, parce que j'ai fait l'expérience de rééditer à tout petit nombre 4 volumes, dont 3 avaient été saisis et détruits par la police gaulliste. Ça ne vous étonnera pas, puisqu'il s'appelle « Les gaullistes vont en enfer et le général mourra ». Par conséquent,
vous étiez bon prophète.
J'ai cherché ce qui m'est arrivé. Oui, il est mort, mais il n'est pas enterré. C'est ça qui est plus ennuyeux. Et puis Lyautey assassiné, ça c'était l'histoire de la perte du Maroc qui a déclenché celle de l'Algérie, au fond. Alors j'ai eu de très longs entretiens avec Pinet, Garfort, Grandval et quelques autres. Et puis le quatrième, c'est Mitterrand dévoilé, qui a été publié en 80. Je crois que j'avais fait une bonne analyse du personnage. Si on l'avait écouté, ça aurait peut-être servi. Naturellement, on ne m'a pas écouté, on ne m'écoute jamais.
On ne m'écoute jamais, sauf sur Radio Courtoisie.
Vox clamans in deserto. Enfin, sauf devant ce micro, effectivement. Alors, mais ces livres en très petit nombre seront là dimanche, et ils ne seront là que cet instant, parce qu'il n'y a que ça.
C'est un très très joli travail éditorial, hein. C'est superbe, c'est des petits bouquins avec des couleurs
très élégants,
vives, et alors le nom de la collection, Scripta Restituta, ça c'est magnifique. Vraiment, très beau travail d'édition, on pourra découvrir ça dimanche à la fête de Radio Courtoisie.
Serge, est-ce que je peux t'embêter aussi avec la petite annonce?
Ah oui, pardon, j'allais oublier.
Voilà, là. J'ai dit ce que j'avais à dire.
J'en ai quatre, hein,
le jeudi 20 à Paris, une grande manifestation propitiatoire après la profanation du cimetière catholique de Toulon. Ça aura lieu à 19h dans un lieu qui vous sera indiqué lors de la prochaine émission et dont vous trouverez l'indication dans présent qu'il faut lire tous les jours, bien entendu.
Parce que ce ne sont pas seulement des illuminés qui ont fait cet acte-là, ça se situe dans un contexte anti-catholique terrible, et encore cet après-midi, je lisais dans Le Monde le droit humain, qui est une obédience mixte franc-maçonne, qui protestait contre la célébration du baptême de la France et de Clovis. N'est pas innocent et tout ça participe d'un même désir de combattre le catholicisme.
Monsieur Levaille est moins excité que toi, parce que lui, il trouve que c'est pas grave du tout. Toulon, ce matin, il proposait en guise de punition pour les profanateurs, sans ligne.
Et Bernard Moreau dans François parle d'une bêtise d'adolescent. Un crucifié à l'envers planté dans le cœur d'une
sans ligne de cocaïne, mais c'est ça. Merci Alain, merci André.
J'ai quatre petites annonces.
Non, moi j'ai Marc Dem au téléphone. Je
me sauve, je dis aux gens à dimanche.
À dimanche. À dimanche, André. Marc, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis là.
Merci d'avoir patienté si longtemps, comme Daniel. Vous êtes aussi patient que Daniel Abiche. Vous avez deux minutes pour nous parler du numéro en cours ou du numéro qui sort de Yotaunum. Je rappelle qu'on peut se procurer Yotaunum à la boîte postale 52 7800 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. Et on trouvera dedans quoi donc ?
Alors, à cette occasion, je peux dire aussi qu'on peut également demander le dernier numéro, c'est-à-dire le précédent, où il y avait un supplément très intéressant sur la messe de Saint-Pie-V à New York, un événement historique. Mais dans celui-ci, eh bien, il y a des nouvelles d'assez grande quantité, entre autres celles qui concernent le 6 juin dernier. Vous savez que le 6 juin, c'était donc le 6-6-1996. C'est l'anniversaire du débarquement en Normandie qui a commencé le 6-6-1944 à 6h du matin. Tout cela fait bien des 6, 3 fois chaque fois. Et en Colombie, en tout cas cette fois-ci, les gens qui ne s'occupent pas du tout du débarquement allié en Normandie se sont précipités dans les églises. Ils ont dit 6-6-1996, c'est l'antéchrist qui est en train de naître. Alors ils sont précipités dans les églises pour demander de recevoir le baptême, ce qu'ils n'avaient pas reçu. C'est intéressant de voir que ce chiffre maudit soulève les foules en Colombie et intéresse énormément de gens actuellement.
Tout à fait. Alors j'ai quelques exemples que je vous enverrai de 666, mais c'est le livre, vous venez le présenter dimanche, je crois, au stand de Mondévi.
Oui, je partagerai entre Mondévi et puis le stand de Philippe Lejeune.
Très bien, Marc. Alors, je rappelle l'adresse. Pardon de vous laisser aussi peu de temps, mais je sens que vraiment, ça va très très mal finir. Les légistes vont finir par me conduire chez le médecin légiste. Alors, à dimanche donc, Marc. Et d'ici là, si on veut commander Yotaunum, boîte postale 52, 78-101, Saint-Germain-en-Laye, CEDEX.
Alors, petites annonces. Le vendredi 14 juin, 20h45, le comité Clovis invite Jacques Trémollet de Villers pour parler des politiques qui ont fait la France. Centre des congrès, salle d'hélice, participation 30 francs. Manifestation dans les rues de Paris,
pour la défense des animaux martyrs, le samedi 15 juin à 14h, rassemblement Gare Saint-Lazare, cours de Rome. Les scouts Godefroy de Bouillon et l'association L'Ancre vous invitent à un méchoui au profit de la construction de l'église Saint-Martin de Noisy-le-Grand le dimanche 23 juin. Inscription et renseignements avant le 20 juin, il faudrait se dépêcher. Scouts Godefroy de Bouillon, 65 avenue Secrétaire, Paris 19e. Qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est Marc qui décroche.
43 46 04 16. Avec une messe traditionnelle.
Godefroy de Bouillon, méchoui.